VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Prestation de serment pour les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle au Mali. Manifestation en Côte d'Ivoire suite à la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Nous entendrons l'analyse d'Alexis Tano.
C'est évident, c'est dans tous les esprits aujourd'hui. Les gens ont peur que la situation que les Ivoiriens ont vécue en 2010 se reproduise. Qui va prendre la responsabilité d'appeler les gens dans la rue? Qui va assumer certainement les conséquences?
Nous ferons également le point sur la pandémie du coronavirus dans le monde. Aux États-Unis, le cap des 5 millions de cas a été franchi. Et le président Trump a dévoilé un nouveau plan d'aide pour les Américains frappés par le chômage ou menacés d'expulsion de leur logement à cause du Covid-19. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mali, l'envoyé spécial des États ouest-africains, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est arrivé aujourd'hui dans la capitale Bamako pour assister à la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et rencontrer divers acteurs de la crise que traverse ce pays. Plus de détails avec Nanit Talani.
Après avoir assisté à la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, M. Goodluck Jonathan devrait rencontrer l'imam Mahmoud Diko, figure de proue du mouvement qui conteste le pouvoir au Mali, selon un de ses proches. Il doit aussi recevoir une délégation de la société civile malienne. La médiation de la CEDEAO n'a jusqu'ici pas réussi à mettre fin à la crise politique au Mali. La contestation a d'ailleurs prévu demain de nouvelles manifestations contre le président Keïta, malgré la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle. Celle-ci est en effet considérée comme l'un des éléments déclencheurs de la crise politique actuelle, après qu'elle a invalidé fin avril une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril, dont une dizaine en faveur de la majorité du président Ibeka, au pouvoir depuis 2013. Les 9 nouveaux membres de cette cour ont été nommés vendredi, conformément aux recommandations de la CEDEAO fin juillet, pour tenter de sortir le pays de la crise politique.
Au Niger, les forces armées traquent les auteurs de l'attaque dénoncée comme terroriste par Niamey et Paris, qui a tué hier 8 personnes, dont 6 humanitaires français de l'ONG Acted, qui va porter plainte à Paris. Ces meurtres, qui n'ont pas été revendiqués, ont été perpétrés dans la région de Kourée. L'attaque a eu lieu dans la seule zone classée jaune, où les déplacements touristiques sont possibles, dans ce pays en proie à des violences djihadistes croissantes. Nous entendrons des témoignages recueillis par notre correspondant sur place dans la partie magazine de ce journal. Au Burundi, 3 jeunes gens, dont une fille, ont été condamnés hier à Kayanza, dans le nord du pays, à 30 ans de réclusion pour attentat et complot contre le chef de l'État, le général Évariste Ndayishimiye, pour avoir jeté des pierres sur son cortège mercredi dernier. La procureure avait requis 7 ans et demi de prison contre les prévenus effrayés et totalement dépassés qui ont comparu sans avocat. Durant tout le procès, ils ont nié avoir jeté ou été témoins de jets de pierres, mais la cour a requalifié les faits d'attentat et complot contre le chef de l'État, les condamnant à 30 ans de réclusion. Au Congo-Brazzaville, l'opposition s'élève contre un projet de loi prévoyant le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité, accusant les autorités de vouloir les utiliser à des fins électorales à la présidentielle de 2021. Selon le gouvernement, ce projet de loi veut permettre aux gendarmes, policiers et militaires de voter avant, afin de s'occuper exclusivement de la sécurisation du vote le jour du scrutin. Pour l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas, chef de l'Union des démocrates humanistes, cela va permettre des fraudes et le bourrage d'urnes au profit du candidat du Parti congolais du travail au pouvoir. La prochaine présidentielle est prévue en avril 2021.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a enjoint aujourd'hui au gouvernement et aux citoyens de tout faire pour éradiquer la transmission du coronavirus, en passe d'avoir contaminé 20 millions de personnes et provoqué 750 000 décès. Eric Manirakiza.
Cette semaine, nous atteindrons 20 millions de cas enregistrés de COVID-19 et 750 000 décès. Derrière ces statistiques, il y a beaucoup de douleur, de souffrance, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse en ligne. Affirmant qu'il n'est pas trop tard pour inverser l'épidémie, il a précisé que les dirigeants doivent se mobiliser pour agir et les citoyens doivent adopter de nouvelles mesures. Si nous éradiquons efficacement le virus, nous pouvons ouvrir les sociétés en toute sécurité, a-t-il insisté, en passant en revue plusieurs pays dont les efforts ont porté leurs fruits. La Nouvelle-Zélande, qui a franchi dimanche la barre des 100 jours sans aucune nouvelle contamination, est considérée comme un exemple mondial, a-t-il ajouté. Le directeur général de l'OMS a également loué les progrès du Rwanda, dû selon lui à une combinaison de leadership fort, de couverture sanitaire universelle, d'agents de santé bien soutenus et de communication claire en matière de santé publique. Il a enfin salué l'action rapide de certains pays européens comme la Grande-Bretagne qui a renforcé le confinement de certaines zones du nord de l'Angleterre ou la France qui a imposé le port du masque en extérieur dans certains espaces très fréquentés de Paris.
Épidémie du coronavirus toujours, les États-Unis qui restent le pays le plus endeuillé avec près de 163 000 morts ont dépassé hier les 5 millions de cas confirmés de contamination. Faute d'accord au Congrès, le président Donald Trump a dévoilé samedi un nouveau plan d'aide par décret en faveur de millions d'Américains menacés d'expulsion de leur logement et frappés par le chômage à cause de l'épidémie de Covid-19 qui continue de progresser aux États-Unis. Nathalie Barge.
Nous allons sauver les emplois américains et venir en aide aux travailleurs, a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à son golf de Bedminster dans le New Jersey. Monsieur Trump a signé 4 documents qui prévoient un gel des charges salariales, une allocation chômage de $400 par semaine, des protections pour les locataires menacés d'expulsion et un report du remboursement des emprunts étudiants jusqu'à la fin de l'année avec abaissement du taux d'intérêt à 0%. Alors que les premières mesures d'aide économique ont expiré au 31 juillet, les discussions n'ont rien donné au Congrès. Les républicains proposaient d'abaisser l'aide à $200 et les démocrates voulaient conserver $600. Coupant la poire en deux, M. Trump a annoncé $400 par semaine. Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle de novembre, a critiqué ce plan, estimant que les États-Unis avaient besoin d'un dirigeant capable de négocier un accord avec le Congrès.
Toujours ici aux États-Unis, le sénateur américain Marco Rubio a dénoncé aujourd'hui les arrestations menées à Hong Kong, tandis que la Maison-Blanche affirmait que le président Donald Trump resterait ferme face à la Chine. À Hong Kong, le mania de la presse Jimmy Lai et une autre figure de proue du mouvement pour la démocratie, Agnès Chow, ont été arrêtés aujourd'hui au nom de la loi controversée sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Une nouvelle étape dans la reprise en main musclée de cette ex-colonie britannique. La Chine a officiellement salué cette arrestation. Au Liban, le Premier ministre a annoncé sa démission ce lundi, 6 jours après les explosions d'un entrepôt dans le port de Beyrouth. Le gouvernement était de plus en plus contesté par une partie de la population qui accuse les dirigeants d'incompétence et de corruption. Plus de détails avec Mohamedou Oumfa.
Le Premier ministre Hassan Diab est apparu à la télévision nationale à 16h30 GMT pour annoncer sa décision de rendre la démission de son gouvernement. Une décision qui est intervenue après celle des ministres de la Justice, de l'Information et de l'Environnement. depuis la double explosion le 4 août dans un entrepôt du port de Beyrouth qui a fait au moins 160 morts, plus de 6000 blessés, détruit une partie de la capitale et fait près de 300 000 sans-abri. Des centaines de Libanais manifestent dans les rues. Ils accusent les autorités de corruption, de négligence et d'incompétence. Le pouvoir libanais n'a toujours pas répondu à la principale question de savoir pourquoi une énorme quantité de nitrate d'ammonium était entreposée au port, au beau milieu de la ville. Le président Michel Aoun, de plus en plus contesté, a rejeté l'idée d'une enquête internationale. Et aucune information n'a été communiquée sur le déroulement de l'enquête locale. Malgré l'annonce de la démission du Premier ministre, des heurts étaient toujours signalés autour du Parlement.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, les agents du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus ont marché ce lundi pour réclamer une prime promise le 30 juin. La marche a débuté au centre de la riposte à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, le gouvernement avait dit que le budget prévu pour la fête serait affecté au personnel soignant de Covid-19 et aux forces armées. Le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, a annoncé ce 10 août le début de la deuxième période dédiée aux ventes soldes 2020, effective jusqu'à la fin du mois. Invitant les commerçants au respect des règles du marché, le gouvernement a mis en place des équipes qui sillonneront les magasins en vue de s'assurer de l'application des dispositions prévues pour ce type de vente. L'Algérie souhaite réévaluer son accord avec l'Union européenne qui prévoit l'entrée en vigueur d'une zone de libre-échange le 1er septembre. Les accords signés par l'Algérie ont maintenu durant des années l'économie nationale dans un état de dépendance et de consommation continue de tout ce qui est importé, déplorait le ministre du Commerce Kamel Rezig lors d'un colloque en février. L'Union européenne et l'Algérie préparent la création d'une zone de libre-échange depuis 2005.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La validation ou non des candidatures à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est toujours attendue. Mais pour l'ancien international ivoirien Copa Barry, la candidature de son ancien coéquipier en sélection, Didier Drogba, a été validée. Bonjour bro, on est officiellement validé pour la candidature à la FIFA, signée Didier Drogba. C'est l'annonce qu'a faite l'ancien gardien des éléphants ce lundi sur sa page Facebook, évoquant un message que lui a envoyé Didier Drogba et qui confirme ainsi la validation de la candidature de ce dernier pour l'élection à la présidence de la FIFA. Depuis le 1er août, jour du dépôt des dossiers de Drogba, de nombreux observateurs estiment qu'il ne remplit pas les critères, notamment ceux du parrainage. La date du scrutin est fixée au 5 septembre avec deux autres candidats en lice, Sori Diabaté, premier vice-président actuel de la FIFA, et Idriss Diallo. Et puis, ce serait possible d'avoir des supporters au stade du Caire pour les demi-finales de la Champions League CAF, selon le journal Le 360 Sport. Le directeur du stade du Caire, Ali Darouche, a annoncé que l'enceinte de la capitale égyptienne pourrait accueillir 25 000 spectateurs. Pour ces deux rencontres opposant le Wydad Casablanca à Al Ahly et le Zamalek au Raja, cependant, Ali Darouche a affirmé que les 25 000 supporters qu'accueillera le stade du Caire vont respecter la distanciation et qu'un plan strict du respect des consignes de sécurité a été peaufiné et qu'il n'attend que l'autorisation des autorités égyptiennes et de la CAF pour mettre en application le plan. Pour le moment, la CAF a prévu le huis clos pour ces rencontres. Ici, en NBA, Blazers et Spurs conservent l'espoir de jouer un barrage qualificatif pour les playoffs après leur victoire la nuit dernière. Portland a dominé Philadelphie 124-121. Avec au sortir une inquiétude pour la star camerounaise Joel Embiid, des Sixers touchés à la cheville gauche. Pour sa part, San Antonio a battu la Nouvelle-Orléans 113-122. Cette dernière est définitivement éliminée et ne verra donc pas les playoffs, tout comme Sacramento. défait par Houston 129-112. La logique a été respectée entre Toronto et Memphis, le champion en titre s'étant imposé 108-99 pour cimenter son statut de tête de série numéro 2 à l'Est. Le Camerounais Pascal Siakam, 26 points, a été le grand artisan du 50e succès de la saison des Raptors. En battant les Clippers 129-120, les Brooklyn Nets, eux, se sont assurés une 7e place à l'Est qui les opposera à Toronto en play-off. Et du même coup, c'est le Magic 8e battu après prolongation par Boston 122-119 qui sera contraint à un exploit encore lors du premier tour contre Milwaukee de Gianni Antetokounmpo.
Merci Yakuba. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Niger, l'attaque terroriste qui a causé la mort de 2 Nigériens et 6 Français dimanche dans la commune de Kouré, à une 60aine de kilomètres de Niamey, la capitale, n'est toujours pas revendiquée. 7 des 8 victimes parties en excursion touristique dans cette zone où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, travaillaient pour une ONG internationale. À Niamey, beaucoup de réactions et d'interrogations résumées dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Sur son compte Twitter, le président nigérien Issoufou Mahamadou a condamné une attaque terroriste lâche et barbare dans une paisible localité. L'opposant Hama Amadou a lui indiqué sur sa page Facebook « Priez pour le repos des âmes des disparus et pour que les auteurs de cette barbarie connaissent le pire des châtiments ». Au sein de l'opinion, beaucoup d'interrogations sur l'efficacité du système sécuritaire, mais aussi sur les caractères des messages que les groupes terroristes envoient à travers ces attaques aux autorités nigériennes et à leurs partenaires. Aksar Moussa, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Événement.
Les terroristes, en perpétrant cette attaque, voudraient envoyer un message à la France et à tous ses partenaires qui sont dans cette zone-là. La France, parce que, comme vous le savez, le long de la frontière entre le Niger et le Mali, elle a eu à mener des opérations conjointes avec ses partenaires où bon nombre de terroristes ont été neutralisés. Ensuite, au Niger, pour dire qu'ils peuvent frapper partout là où ils veulent.
Le journaliste Gary Amadou s'inquiète, lui, de la facilité avec laquelle les assaillants ont pu atteindre la profondeur du pays pour poser leur acte.
Visiblement, le maillage sécuritaire de tout le pays n'est pas très à point parce qu'il permet aux terroristes de se profiler, de parcourir de longues distances pour arriver à quelques kilomètres de Niamey, mener une attaque et rebrousser chemin. Ça, c'est extrêmement inquiétant.
Pour Boubacar Diallo, acteur de la société civile, les circonstances de cette attaque relancent le débat sur la capacité de renseignement de nos États.
Moi, je pense qu'il faut revoir ce système. Il faut revoir tout le système. Et surtout, se donner les moyens pour le renseignement. Parce que ici, c'est le renseignement qui a pris un coup. On est en train de mettre les moyens sur les matériels, alors que le renseignement ne suit pas. Quels que soient les moyens qu'on mettra à la disposition de nos forces de défense, tant qu'il n'y a pas de renseignement, c'est que tout est voué à l'échec. Parce que c'est l'existence même de nos États qui est en jeu. Il faut qu'on mette de côté le sentiment, il faut qu'on mette de côté la politique, et pour ne voir que l'intérêt de nos États, l'intérêt de nos pays.
Selon l'agence nigérienne de presse qui cite des sources policières, un des assaillants de l'attaque a été appréhendé. Les opérations de ratissage se poursuivent. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Des manifestations sporadiques ont lieu dans certaines villes du pays depuis que le président Alassane Ouattara a annoncé la semaine dernière sa candidature à un troisième mandat. Des villes comme Gagnoa, fief de l'ancien président Laurent Gbagbo, connaissent quelques mouvements de jeunes qui s'opposent à cette candidature du président. S'agit-il de manifestations coordonnées ou de simples agitations de mécontents? Pour comprendre, Yakuba Ouédraogo a joint via Skype à Abidjan Alexis Tano, journaliste et analyste politique.
La plupart du temps, la majorité des manifestants, ce sont des jeunes qui sont dans les rues avec des pancartes sur lesquelles il est écrit « Non à un troisième mandat, non à la candidature du président Ouattara ». À l'est du pays, dans la région de Lifou, à Bangwanou, à Kotobi, je crois dans la région du Sud-Komou et à Bonoua, de façon épaisse comme ça. Mais je crois que ce n'est pas de mouvement de grande ampleur.
Est-ce qu'il faut voir là une instrumentalisation quelconque?
C'est difficile de le dire, étant donné qu'à Abidjan, beaucoup de personnes contestent effectivement, depuis l'annonce de la candidature du président de la République dans son message à la nation à la veille de l'indépendance, beaucoup de personnes ont contesté, même au niveau des observateurs de la scène politique, beaucoup n'ont pas du tout apprécié, en dehors des partisans de M. Ouattara, c'est tout évident. Donc, on peut dire que c'est un mouvement réel qui est né, mais seulement pas encore coordonné.
On sent une certaine réticence des hommes politiques à appeler à manifester, alors que dans les médias, ils disent que ce troisième mandat n'est pas constitutionnellement possible. Est-ce qu'ils craignent un scénario à la 2010?
C'est évident, c'est dans tous les esprits aujourd'hui. Les gens ont peur que la situation que les Ivoiriens ont vécue en 2010 se reproduise. Effectivement, qui va prendre la responsabilité d'appeler les gens dans la rue? Qui va assumer certainement les conséquences? Je crois que ça aussi, on y pense beaucoup. Parce que dans ce genre de situation, les massacres, les répressions, les massacres sont trop vite arrivés. On a vu, l'histoire était récente en la matière. En 2010, il y a eu beaucoup de morts déjà dont on n'a pas encore eu les auteurs, n'a pas encore connu les responsables. Donc c'est difficile aujourd'hui, je crois bien, dans la position des leaders politiques, de se lancer de façon précipitée à ce genre d'appel qui pourrait encore faire couler le sang en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre à la personne de Ahmed Bakayoko, réputé être un homme de dialogue. Est-ce que l'opposition, tout le monde peut accepter d'aller à la table des négociations et du dialogue avec Ahmed Bakayoko?
Depuis sa prise effective de ses fonctions de Premier ministre, il a entrepris de rencontrer les leaders politiques. Et je crois qu'au sorti de leurs audiences, ils ont tous accepté le nouvel esprit qui habite le Premier ministre. Mais je rappelle aussi qu'il a déjà, sous l'ancien Premier ministre, il avait déjà conduit le dialogue politique. Le dossier n'est pas nouveau pour lui, il maîtrise déjà le dossier et je crois qu'il ne reste qu'à le relancer. Et je crois qu'il a de bonnes dispositions au niveau des leaders politiques qu'il a déjà rencontrés.
C'était Alexis Tano, journaliste et analyste politique. Il était joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La course contre la montre à Maurice où les équipes d'intervention tentent d'empêcher une nouvelle fuite d'hydrocarbures après qu'un bateau a échoué au large de ses côtes. Selon la compagnie japonaise qui exploite le navire, plus de 1000 des 4000 tonnes de carburant qu'il transportait se sont déjà déversées en mer. Les autorités craignent que le bateau se brise, ce qui pourrait causer une marée noire de grande ampleur. Pour un témoignage, Abdourahmane Dia a joint à Maurice Nad Sivaramen, directeur des publications du groupe de presse La Sentinelle.
La situation est très tendue à Maurice. Tout le monde attend avec inquiétude si le bateau va se briser en deux ou pas. Vous savez, le bateau s'est imbriqué dans la barrière de corail le 25 juillet à 19h30. Ce n'est que le 6 août que il a commencé à répandre de l'huile lourde dans le lagon cristallin du sud-est de Maurice. Et c'est à ce moment seulement que le gouvernement mauricien a lancé un SOS à l'aide internationale. En avouant, concédant que Maurice n'a pas les équipements ni l'expertise nécessaires pour faire face à une telle catastrophe maritime.
Et comment se passe l'intervention sur place pour essayer de contenir la nappe polluée?
Oui, il y a un bateau, le Champlain, qui est venu de France. Le bâtiment était basé à La Réunion, pas loin. Et depuis ce matin, il essaye de pomper les 2500 tonnes de fuel qu'il y a sur le bateau. Mais l'opération est rendue difficile par la mauvaise condition météorologique.
Il y a déjà 1000 tonnes qui se seraient déjà déversées sur l'océan, c'est exact?
Oui, selon l'armateur japonais, le Wakashio est un bateau japonais, battant pavillon panaméen. Selon l'armateur, il y a eu 1000 tonnes qui se sont échappées donc, dans le lagon. Et selon le premier ministre, il reste 2500 tonnes hier soir dans les réservoirs du bateau. Depuis ce matin, ils ont pu extraire jusqu'à 300 tonnes. Et comme je vous ai dit, les vagues empêchent les gros bateaux venus donc aider de mener leur opération.
Alors, on parle aussi de milliers de volontaires, hein, les populations qui se mobilisent également.
Le public a compris qu'il faut prendre les choses en main parce que le gouvernement a avoué donc son impuissance. Donc, on a vu des milliers de Mauriciens de manière spontanée apportant de la paille, certains se coupant même les cheveux parce qu'apparemment les cheveux absorbent l'huile mieux que n'importe quelle autre matière. Donc, il y a des gens qui se font couper les cheveux, d'autres apportent des bouteilles de plastique, des seaux pour remplir, pour protéger les côtes, mais déjà salies, déjà souillées par les hydrocarbures. Donc, mais c'est quand même l'espoir est là avec le response des citoyens qui vient pallier donc au manquement du gouvernement ou au manquement du pays en général.
C'était Nad Sivaramen, directeur des publications du groupe de presse La Sentinelle. Contre la Covid-19 au Cameroun, où les peuples autochtones font preuve de résilience. L'impact des mesures socio-économiques prises par le gouvernement contre la pandémie a été très faible au sein de cette communauté, qui a dû prendre par ailleurs des initiatives endogènes pour faire face à la pandémie. C'est ce que révèle une étude menée dans les 5 grands groupes de peuples autochtones du Cameroun. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julunta.
C'est à travers le projet Citizen Voice for Change, CV4, entendez voix des citoyens pour le changement, que plusieurs leaders communautaires ont été sensibilisés au Covid-19, avec pour mission de porter à leur tour le message des mesures barrières auprès des populations autochtones.
Le peuple autochtone sont très fragile dans ce genre de situation.
André Awuma est leader communautaire à Djoum, dans la région du Sud, à plus de 276 km de Yaoundé, où l'on retrouve les Baka, l'un des peuples autochtones du Cameroun.
Les communautés n'étaient pas habituées de gérer ce genre de situation. Il fallait la sensibilisation pour les amener à comprendre ce système de vie.
Le gouvernement a aussi joué sa partition dans cette sensibilisation, notamment par le canal des services d'action sociale dans la centaine de communes abritant les peuples autochtones. Henri Nyambi Troadikoso, directeur de la Solidarité nationale et du développement social au ministère des Affaires sociales.
C'est des populations qui vivent en vase clos. Et donc, il faut que dans les interactions avec les autres communautés, ils s'assurent que les mesures barrières sont respectées. Et c'est donc dans ce sens-là que la campagne est menée. On met aussi à leur disposition les kits sanitaires.
Delphine Aou est une femme Baka du village d'Impam, situé dans l'arrondissement de Mindourou, région de l'Est, à plus de 290 km de Yaoundé. Elle est l'un des points focaux de lutte communautaire contre le Covid-19 dans son village.
Il y a une équipe médicale qui est passée au village. On nous disait seulement de laver les mains. Ils n'ont pas eu à nous faire des tests. Nous utilisons nos mesures barrières venant de notre tradition, avec les herbes, les feuilles et autres.
Le recours des populations autochtones aux connaissances et pratiques traditionnelles s'est généralisé durant la pandémie. Romia Langono, du Centre pour l'environnement et le développement, a sillonné 17 villages où résident des populations autochtones.
Dans chaque communauté, il y a eu les anciens qui sont retournés vers la forêt, toujours avec l'esprit de la forêt qu'ils appellent les djengi, qui, disent-ils, a été d'un grand apport dans la préparation du médicament pour prévenir la maladie.
Toutefois, au regard de leurs conditions de vie et d'extrême pauvreté, la vulnérabilité économique de ces populations s'est vite fait ressentir au sein des différentes communautés. Une fois de plus, Romia Ngono, auteur d'une étude sur la résilience des peuples autochtones du Cameroun au Covid-19.
Le transport a augmenté, ce qui fait que les déplacements, par exemple, pour aller vendre les produits forestiers non ligneux, ces populations ne peuvent plus le faire aisément. Le prix même donc, de ces produits a drastiquement baissé. Donc, elles sont obligées soit de consommer elles-mêmes ces produits, soit de les stocker. Et les conditions de stockage ne sont pas toujours évidentes.
À ce jour, aucun cas de nouveau coronavirus n'a été officiellement enregistré au sein des 5 grands groupes de peuples autochtones du pays que sont les Baka, les Bagili, les Bakola, les Bedzan et les Bororo. Yaoundé, Emmanuel Jolumtap, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci. merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Moragibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.